Et la question qui vous était posée est la suivante. En ce 21 juillet, la Belgique peut-elle redonner confiance aux jeunes dans la démocratie? La question est posée, elle est nette, elle est claire. Alors Lise, est-ce que nos auditeurs ont tranché la question?
Sur Facebook, on est à 90% de non. Donc ça, on peut pas dire que ça soit pas clair comme prise de position. Sur Insta, on est également à une majorité de non, je vais vous dire 86% de non sur Insta, et sur X aussi une large majorité de non. Et vous allez voir que dans mon souvenir, l'ancien Premier ministre de Belgique qui répond à la question du jour était un petit peu plus optimiste. Marc Esquinze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, à l'occasion de la fête nationale de ce 21 juillet, on a posé comme question du jour à nos auditeurs, est-ce que la Belgique peut redonner confiance aux jeunes dans la démocratie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un ancien Premier ministre de Belgique?
Mais sûrement, je crois que la Belgique reste toujours un laboratoire de tentatives démocratiques. C'est-à-dire la démocratie est évidemment une formule en évolution. La démocratie est un art qui est ancré dans une certaine forme de civilisation. C'est une grande valeur. La démocratie s'inspire de la dialectique du grand philosophe Hegel. C'est-à-dire il y a dans toutes les sociétés des oppositions, des thèses et des antithèses, donc des discordes, des conflits. Mais si ces oppositions ne conduisent pas à la violence, mais à la parole, à la discussion, au dialogue, cela peut conduire à une synthèse. Et la synthèse est la base même de la démocratie, qui est la gestion des divergences d'opinion. Or, en Belgique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de divergences d'opinion depuis l'origine du pays. Mais récemment, depuis la fin de la guerre, disons, la question royale, la question scolaire, certains conflits sociaux, tout cela s'est résolu, nonobstant et peut-être grâce à des manifestations dans les rues, dans les villes, à des grèves, à des conflits sociaux, mais finalement, on s'en est tiré chaque fois. Et dès lors, la Belgique reste un modèle à expérimenter dans beaucoup d'autres pays.
Alors, vous parliez de divergence d'opinion et nous, on essayait de parler d'avenir avec cette question sur la jeunesse. Le droit de vote à 16 ans va arriver au Royaume-Uni, Marc Esquinze. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en Belgique? Est-ce que ça serait un pas audacieux pour renforcer la démocratie dans le pays?
Mais je trouve qu'il faut faire la distinction entre les niveaux de pouvoir. Je suis partisan d'un vote à 16 ans pour les élections communales, car la gestion des communes est très proche des gens. Par contre, pour les européennes et les élections fédérales, je trouve que 18 ans est un âge correct, car les problèmes qui se posent à ces niveaux-là sont extrêmement complexes et de plus en plus complexes. Pour les régions, là, j'hésite un peu. On pourrait peut-être là introduire aussi 16 ans comme âge. Mais donc, moi, je veux plutôt un vote échelonné selon la complexité des problèmes qui se posent.
Alors, c'est vrai que c'est une question que la Belgique s'est déjà posée, puisque le gouvernement fédéral avait décidé en 2022 de permettre aux jeunes de 16 et 17 ans de voter aux élections européennes. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement?
C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que dès lors que le vote n'est plus obligatoire, on peut se poser sur la validité démocratique du vote en soi. Si 30%, 40% des gens qui peuvent aller voter ne vont pas voter, quelle est encore la représentativité du résultat électoral? Prenez la Grande-Bretagne. Le Brexit a été voté par, je crois, les deux tiers, mais les deux tiers des votants ne représentaient à peine 51% des gens qui pouvaient aller voter. Donc, il y avait une très grande minorité en Grande-Bretagne qui était opposée au Brexit. On l'a quand même fait. Donc, la représentativité, à mon avis, continue à requérir le vote obligatoire. La démocratie est au fond un privilège. Quand on voit les régimes politiques de par le monde, la rareté des démocraties qui existent et qui fonctionnent bien, c'est un devoir d'aller voter qui est la conséquence du privilège de pouvoir vivre en démocratie.
Alors, comment expliquer justement quand c'était le discours de Bardo Weaver qu'on entendait en fond quand il a pris le pouvoir, aujourd'hui on est à Bruxelles dans un vrai problème. On a l'impression que la démocratie est coincée et ça n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation, Marc Esquens, en Belgique, sans gouvernement.
Oui, mais c'est quand même extrêmement grave, extrêmement inquiétant. Donc, la formule appliquée à la région bruxelloise, apparemment, fonctionne très difficilement. Mais changer tout cela implique une réforme de la Constitution, pour laquelle il faut au Parlement fédéral, évidemment, les deux tiers. Et donc, il y a un blocage, très, très angoissant. Car les conséquences sur le plan matériel deviennent de plus en plus visibles. Bruxelles, la région Bruxelles n'a plus d'argent. Elle sera dans une situation où elle sera incapable de payer son personnel, etc., d'exécuter des travaux tout à fait essentiels. Donc, ça risque de s'aggraver et devenir une crise où le fédéral, probablement, devra reprendre certaines compétences qui aujourd'hui étaient dévolues à la région bruxelloise.
Et quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques de la démocratie belge, les meilleurs systèmes qu'on peut avoir en Belgique?
Bah, le débat, le fait que on se dispute beaucoup, mais que finalement on finit par s'entendre. Et moi, j'ai été pendant 25 ans membre du Parlement. Il y avait des débats aussi violents et en séance publique. Et puis, on quittait la séance plénière, on déambulait dans les couloirs du Parlement. Et avec les collègues avec lesquels on s'était disputé violemment un quart d'heure avant, on fraternisait, on allait au bar et on buvait ensemble une bonne bière belge. Donc, la dispute, en démocratie belge, a aussi un côté théâtral, un peu. Mais finalement, il y a quand même une compréhension humaine entre les opposants. Et cela était, je crois, un élément de tolérance qui finalement conduit à des accords. Oui.
Justement, pour finir sur Bruxelles et sur les différentes opinions, en 2010, la Belgique a connu une assez grave crise politique qui opposait les Flamands et les Wallons. Elle est restée 541 jours sans gouvernement. Et on dit que s'il n'y avait pas eu Bruxelles, le pays ne se serait pas peut-être scindé, mais que d'un autre côté, sans Bruxelles, il n'y aurait pas non plus de raison de vivre ensemble, puisque la capitale est véritablement la seule région complètement bilingue du pays.
Vous avez raison. Tant en Flandre qu'en Wallonie, et surtout peut-être en Flandre, on sous-estime l'importance de Bruxelles. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Bruxelles est le siège de l'OTAN. Bruxelles est le siège de dizaines, de centaines de sociétés importantes sur le plan économique. Bruxelles apporte beaucoup à la richesse du pays. Bruxelles, comme capitale diplomatique quand même de l'Union européenne, est citée chaque minute dans les nouvelles internationales. Brussels has decided, quand on parle de l'Union européenne. Donc, les Belges ne se rendent pas compte de la richesse, j'allais dire, morale que constitue l'existence de Bruxelles en tant que capitale internationale et donc capitale diplomatique. Ça apporte aussi beaucoup, non seulement de richesses économiques, mais de richesses culturelles. Bruxelles est vraiment un centre de culture dans tous les arts, aussi la science, le développement intellectuel, et Bruxelles contribue d'une manière importante à la richesse nationale, avec comme paradoxe que les gens qui travaillent à Bruxelles, en général, n'habitent pas Bruxelles, n'habitent en Flandre ou en Wallonie, dans la périphérie, mais dans d'autres régions. Ils sont donc taxés dans ces régions et pas à Bruxelles, ce qui fait que Bruxelles n'en profite pas fiscalement.
Alors pour terminer vraiment, l'autre chose qui rapproche les Belges en dehors de Bruxelles dont on vient de parler, c'est la famille royale, puisque d'un côté comme de l'autre, en règle générale, on aime la famille royale de Belgique. Et comment est-ce que ça, c'est compatible avec la démocratie dont on parlait au début de cette interview, Marc Esquins?
Mais je crois qu'il y a un consensus implicite, ça n'est pas soumis à un référendum, d'accepter la monarchie en Belgique. On a eu une crise royale extrêmement grave avec le roi Léopold III et son retour contesté. On a été tout près d'une implosion de la monarchie en Belgique, où un président de la République élu aurait évidemment moins de prestige qu'un roi héréditaire. Un roi héréditaire est un peu contraire au principe de la démocratie élective, mais d'autre part, un président élu démocratiquement dans un pays comme la Belgique serait soit un Flamand, soit un Bruxellois, soit un Wallon, et donc porterait une étiquette. Il serait soit néerlandophone, soit francophone, et tout cela dans un pays aussi diversifié. Une présidence électorale de la République est moins souhaitable que la monarchie, et je dois dire que notre roi actuel, Philippe II, joue son rôle d'une façon absolument remarquable, d'une façon extrêmement correcte, et qui refait aussi un peu l'unité, ou au moins le sentiment que la Belgique, ça vaut quelque chose, que c'est important de travailler ensemble.
C'est le cas en effet. On vous souhaite une excellente fête nationale. Marc Esquins, ancien Premier ministre de Belgique, merci d'avoir été avec nous en cette journée importante. Bonne journée à vous, à très vite.
Un tout grand merci, chère madame. À bientôt. Oui, au revoir.
Au revoir. Bye bye.